Bonjour à tous. En ce moment, je tente de diversifier mes activités et pour pouvoir suivre mes cours de tricot tranquille, je vous propose, en toute discrétion, bien sûr, de réécouter le meilleur de Pop Pop Pop. Aujourd'hui, dans mon mixeur de pop culture, les Rival Sons, Loïc Prigent et avant ça, un petit jeune qui démarre, Jimmy Page. Pop-hopienne, pop-hopien et tous les autres aussi, bonjour. Je vous ai déjà fait le coup il y a quelques semaines du pop-pop-pop pas comme les autres lorsque nous avons diffusé l'interview de Bruce Springsteen. Mais là, au risque de me répéter, je me répète. Le pop-pop-pop d'aujourd'hui, c'est de la super balle. Notre invité a créé il y a tout juste 50 ans un groupe qui a fondu sur la scène musicale de l'époque comme le font les ouragans sur les côtes caribéennes quand arrive le mois de septembre. La comparaison s'arrête là car au lieu de semer mort et destruction, cet ouragan-là a au contraire stimulé les années 70 en même temps qu'il réinventait une grammaire musicale et sans même parler des shows flamboyants tandis qu'il redéfinissait l'idée que l'on se faisait de la production sonore. Phil Spector avait inventé le mur du son. Le groupe dont je vous parle, c'était la muraille de Chine. On connaît la maxime selon laquelle le tout est plus que la somme de ses parties et peut-être s'applique-t-elle à Led Zeppelin, puisque c'est bien sûr d'eux qu'il s'agit. Mais pour autant, c'est la réunion de quatre virtuoses qui produisit ce volcan dont l'éruption continue de faire sentir ses effets 50 ans plus tard. Autant dire que l'honneur que nous fait Jimmy Page de s'exprimer dans Pop Pop Pop, lui dont la parole est si rare, est apprécié à sa juste valeur.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline Roux.
Bonjour, Antoine.
Quel est votre morceau préféré de Led Zepp? Et par pitié, ne me répondez pas le générique de 50 minutes Inside. Comme tous ceux qui attendent chaque samedi, l'actu d'Ariana Grande et d'Etoré aussi, en confondant avec ce tube. Alors,
c'est précisément celle-là, ma préférée. Il est grande son.
Mais quel bon choix, mais quel choix judicieux. Bravo, Charline, je vous en félicite. Au menu de Pop Pop Pop, donc une spéciale avec Jimmy Page. Le créateur de Led Zepp parle peu, il ne parle presque jamais, mais il nous a accordé une interview exclusive au micro de notre pop reporter Paul Smith. Je laisse donc à ce casting 5 étoiles le soin de lancer cette émission exceptionnelle.
Hi, this is Jimmy Page.
And I'm Paul Smith.
And we're on
Pop Pop Pop. Pop.
Pop, 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 c'est parti! Et on commence tout de suite cet entretien, enregistré la veille des 50 ans de la sortie du premier album de Led Zeppelin, en faisant un bond en 69. Et je laisse la parole à Sir Paul Smith. Nous sommes ici avec Jimmy Page dans sa magnifique maison de Londres. Demain, nous serons le 12 janvier. Cela fera donc exactement 50 ans. Et oui,
il y a 50 ans, jour pour jour, le 12 janvier 1969, le tout premier album, Led Zeppelin 1, est sorti aux États-Unis. Il était déjà passé à la radio et on avait déjà donné des concerts à San Francisco, au Fillmore West. On a donné 3 concerts, on nous a ajouté une 4e date. Donc on a donné 4 concerts à San Francisco et croyez-moi qu'on a fait bouger les choses à San Francisco. Et alors, notre réputation s'était faite par le bouche à oreille parce qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Mais pas d'Instagram ou de YouTube, heureusement d'ailleurs. Donc on s'était fait connaître par la radio, puis là, le produit lui-même, c'est-à-dire l'album qui était sorti dans tous les États-Unis. Et donc c'était le 12 janvier, la date de sa sortie.
Pop, 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 pop. Jimmy Page est avec nous jusqu'à 17h, mais pour l'heure, on écoute le premier morceau de cette playlist 100% Led Zepp avec le morceau Living Loving Made.
So you better lay your money
Living Loving Made, premier morceau signé Led Zepp dans ce pop-up spécial Led Zepp. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Jimmy Page. Charline, au lieu de faire un pop portrait de Jimmy Page, faisons plutôt un Jimmy Page pour les nuls.
Mais ça c'est contrariant Antoine, j'avais prévu une très belle présentation en 10 points, PowerPoint à l'appui, mais effectivement pour la radio c'est moins pertinent. Sachez d'abord que le magazine Rolling Stone l'a classé, notre invité, 3e derrière Jimi Hendrix et Eric Clapton dans le palmarès des 100 meilleurs guitaristes rock de tous les temps. Un petit génie qui, avant d'officier au sein des Yardbirds puis de Led Zepp, a accordé sa guitare et multiples talents en étant musicien studio. C'est d'ailleurs lui qui assure la partie rythmique du You Really Got Me des Kings, ou la guitare lead et le solo du I Can't Explain des Who. Led Zeppelin compte plus de 300 millions d'albums vendus à travers le monde, ce qui est plutôt rassurant quant à la qualité des oreilles internationales et le bon goût mondial. Led Zepp a d'ailleurs été le tout premier groupe à avoir 6 albums simultanément présents dans les charts en 75 au moment de la sortie de Physical Graffiti. Les 5 précédents étaient encore classés parmi les meilleures ventes. De leurs 9 albums le plus vendus à ce jour est le cru 1971, soit Led Zeppelin 4 avec 37 millions d'exemplaires dans le monde. On a beaucoup parlé du goût de Jimmy Page pour l'occultisme et de sa fascination pour Aleister Crowley, poète, romancier et membre influent de plusieurs organisations occultes. Nous nous contenterons de parler d'aura mystique. Et notre illustre interviewé est aussi membre de l'ordre de l'Empire britannique. Ça tombe bien, celui qui l'a interviewé a été anobli par la reine Elisabeth II en 2000. Aujourd'hui dans Pop-Pop-Pop, les royaux Jimmy Page et Paul Smith.
Merci Charline. Alors quand on reçoit dans Pop-Pop-Pop un monstre de la pop culture, on lui demande évidemment son livre, son film, sa musique et sa série culte. Alors ça s'appelle la pop list. Enfin, on lui demande. Ça, c'est quand je demande. Car quand c'est Sir Paul Smith qui s'y colle et qu'il n'a pas ses lunettes, bah, il en zappe la moitié. Bon, intéressons-nous quand même à sa demi-pop liste.
Vous avez un film favori?
Ben, il y a Orange Mécanique.
There was me. That is Alex. And my three droogs. That is Pete, Georgie and Dim.
Ou bien 2001, l'Odyssée de l'espace. Deux films de Kubrick d'ailleurs.
En raison de l'énergie qu'ils dégagent ou de leur originalité?
Il fallait une vision incroyable pour faire Orange Mécanique, c'est-à-dire de reprendre les éléments du livre d'Anthony Burgess et d'en faire un film. C'était absolument incroyable. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était quelque chose d'inédit. On ne pensait même pas à la question des bandes de voyous, des gangs, vous ne connaissez pas. Et lui, d'ailleurs, il n'a pas voulu que le film sorte en cassette, en VHS. Parce qu'il avait peur que ça donne de mauvaises idées aux gamins. Vous ne saviez pas ça? Non, j'ai appris ça. En fait, la version VHS est sortie après sa mort. Non, enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Avec 2001, Kubrick, il a fait quelque chose d'absolument phénoménal. Moi, j'ai deux fils qui s'intéressent au cinéma. Et je me rappelle avoir présenté 2001 à mes trois plus jeunes à la télé. Parce qu'on a un grand écran plat. Enfin, tout le monde a un grand écran plat à la maison de nos jours. Mais vous rappelez, le début du film est très lent. Et alors, à l'époque, ça passait en écran géant dans le cinéma, en cinérama. Et on est complètement envahi par l'image. Il y a cette roue géante qui tourne dans l'espace. Alors, c'est très lent. Je me rappelle qu'au départ, mes gamins me demandaient, mais c'est quoi ce film? Et à la fin du film, c'est le meilleur film de tous les temps. Et en fait, la raison, c'est que mon fils, celui qui s'intéresse au cinéma, il s'est dit, mais je ne vois pas comment il a réussi à faire un truc pareil.
Y a-t-il une chanson, à part les vôtres, qui sort du lot? Comme l'album Astral Weeks, ou bien les chansons de Bob Dylan? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais plutôt une dizaine.
Écoutez, il y a eu un tournant pour moi. C'est quand j'ai vu Lonnie Donegan à la télé. Et je me rappelle qu'il a joué deux chansons, Rock Island Line et Cumberland Gap. Et moi, à l'époque, j'entendais plein de musique, rock avec Little Richard ou Elvis Presley, enfin, j'écoutais toutes sortes de musique. Et puis, j'ai vu quelqu'un passionné qui était là à l'écran, et j'entendais cette énergie incroyable. On voyait ça à la télé, mais on n'entendait jamais ça à la radio. Le rock était quasiment censuré à la radio. Alors, c'est un jeune homme plein de passion, enfin, il était pas tout jeune, c'était plus un adolescent, mais il jouait à la guitare acoustique, le gars. Et alors, pour les guitaristes de l'époque, dont moi-même, on s'était dit, mais dis donc, mais c'est faisable, on peut jouer ça à la guitare acoustique. Et moi, j'avais une guitare acoustique à la maison, je me rappelle. Alors, personne ne jouait de la guitare dans la famille, mais enfin, on avait cette guitare. Et alors, je me rappelle, je suis allé à l'école un jour, j'ai vu un camarade qui jouait justement la guitare en chantant justement une des chansons de Lonnie Donegan. Et je lui ai dit, waouh, j'ai une guitare comme ça à la maison. Et il m'a dit, amène-la, je vais te l'accorder, je vais te présenter des accords. Il y a aussi Van Morrison qui a été très influencé par Lonnie Donegan également. Alors, il écoutait Led Belly et les autres aussi, d'ailleurs. Mais enfin, ce qui est intéressant de voir que Lonnie Donegan a une telle influence. Je vais vous raconter une anecdote. Une histoire tout à fait intéressante. Lors du mariage de Patty et de George Harrison, quand ils sont mariés, ils ont invité, à leur mariage, si je ne m'abuse, ils ont invité justement Lonnie Donegan, qui est venu donc jouer pour eux. Alors, moi, je n'avais pas été invité, mais il y a eu plein d'autres guitaristes qui voulaient absolument y aller pour voir le phénomène de Lonnie Donegan, parce que comme moi, il a eu une telle influence.
Mais c'est absolument fascinant. Je n'aurais jamais pensé à lui. Cela dit, il faut reconnaître qu'il était tout à fait exceptionnel.
Ah oui, oui, il était exceptionnel. Il était très, très bon. Il était un petit peu le J.K. Rowling de la musique, parce que J.K. Rowling, elle a mis tout le monde à la lecture, ou Dan Brown aussi avec le Da Vinci Code. Eh bien, avec Donegan, tout le monde s'est mis à la guitare. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? Now the nation rises one to send their honored sons up to the White House. Yeah, the nation's only White House to voice their discontent. Does your chewing gum lose its flavor? Est-ce que votre chewing gum a perdu son parfum, son goût? Vaste question posée par Lonnie Donegan, le premier crush musical de Jimmy Page, au micro de Sir Paul Smith dans ce pop-pop-pop spécial. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais aujourd'hui, Jimmy Page est l'invité de pop-pop-pop.
Oui, je pense que tout le monde est au courant, Antoine.
Oui, alors ok, suite de l'entretien exclusif, juste après le deuxième morceau de cette playlist 100% Led Zepp, l'occasion de réécouter cette tuerie absolue qu'est Black Dog. Vous pouvez monter le volume.
Pop, 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 Antoine Decaune sur France Inter.
Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.
Led Zeppelin, Black Dog, cet extrait de l'album Led Zeppelin 4, sorti en 71. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et Jimmy Page est pop. Il est donc dans Pop 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 et c'est une...
Breaking Pop 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 News!
La suite de l'entretien londonien réalisé par Sir Paul Smith, c'est juste après mon pop. Est-ce que vous êtes prête, Charline?
Prête!
Et bien voilà comment s'est monté le groupe Led Zepp sur les cendres des Yardbirds. Une interview exclusive de Jimmy Page menée pour nous par Paul Smith.
Au moment de former le groupe, au début il devait s'appeler les New Yardbirds.
On ne voulait pas reprendre en fait le nom Yardbirds, on voulait se différencier de cela, faire une musique vraiment nouvelle, vraiment différente. Alors, il fallait que je trouve un chanteur. J'avais des idées assez précises de ce que je voulais faire. J'avais déjà une idée du répertoire. Et j'avais déjà le profil du batteur en tête, mais il fallait trouver un chanteur. Il fallait faire venir le chanteur chez moi, lui présenter le répertoire, parce que si ça ne cliquait pas, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors je me rappelle, quand j'étais avec les Yardbirds, on travaillait d'ailleurs avec Jeff Beck à l'époque, je me rappelle qu'on était en tournée d'Angleterre. Alors, on avait joué notamment à Ipswich, je crois, dans un cinéma, il me semble. Et là, il y avait un groupe qui s'appelait Peter Jay and the Jaywalkers. Et Peter Jay avait un chanteur absolument incroyable. Je m'en souviens encore. Là, c'était en 65-66. Et ce chanteur m'avait vraiment impressionné. Et il avait, je crois, 15 ans. Et il s'appelait Terry Reid. Terry Reid. Alors, ce qu'il faut savoir sur Terry Reid, il y a un album qui s'appelle River qu'il a fait. Écoutez cet album et vous comprendrez le génie de Terry Reid. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il continue à travailler. Mais enfin, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il avait une attaque un petit peu comme celle de Steve Marriott ou même Steve Winwood à ses débuts. Quelque chose de très, très présent. Une palette vocale absolument. Toujours est-il que... Donc j'ai téléphoné au bureau. Alors c'était marrant, le bureau de Peter Grand et de Mickey Mouse était un peu particulier parce que c'était une toute petite maison. Alors, ils partageaient un bureau avec chacun sa table. Et alors, il y avait quelqu'un à l'accueil, une secrétaire qui faisait un petit peu toutes les tâches. Et les choses se faisaient dans cette espèce de famille nucléaire, là. Enfin, je me rappelle que j'avais demandé à Peter Grant, est-ce que tu peux retrouver ce chanteur qui s'appelait Terry Reid, qui avait joué avec Peter Jay et The Jaywalkers. Puis, bon, ça passe quelques jours, je le rappelle. Alors, il y a du nouveau, ils disent « Ah ouais, non, il vient de signer un contrat pour jouer en solo ». Alors je dis « Bon, ben, c'est dommage, bon ». Mais il a recommandé à certains Robert Plant. Bon. Alors, bon, très bien. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller voir Robert Plant, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, j'aurais pu faire le rapprochement, mais la maison avec laquelle il a signé le contrat en solo, c'était Mickey Mouse qui était dans le même bureau que Peter. Enfin bon, toujours est-il que l'album River est absolument incroyable.
Et c'était la même chose pour le batteur?
Ah non, c'était pas tout à fait la même chose. Parce que pour le batteur, je me rappelle, j'avais, avant de créer mon propre groupe, je me rappelle, on avait enregistré avec Joe Cocker. On avait enregistré With a Little Help from My Friends, j'étais à la guitare. Et là, le batteur me paraissait assez exceptionnel. Je me rappelle qu'il avait joué dans différents groupes. Alors, moi-même, j'avais travaillé avec d'excellents batteurs dans différents groupes quand j'étais encore musicien de studio, donc je connaissais quand même pas mal les batteurs du circuit. Et ce batteur-là me paraissait plutôt pas mal. Mais bon, c'était quelqu'un que j'avais en tête. Mais il fallait d'abord trouver un chanteur. Donc, je me rappelle, pour aller voir Robert Plant, enfin, on est allé dans un collège, c'était qui s'appelait le Teachers Training College, c'était à Birmingham. Donc c'était une école, et puis il y avait un groupe qui s'appelait Hobbs Tweedle, drôle de nom. Et il y avait donc Robert Plant, il n'y avait pas beaucoup de... Toujours est-il qu'il faisait pas mal de musique du genre côte ouest, musique surf et tout ça. Enfin, quand même, j'avais déjà remarqué qu'il avait une gamme vocale assez remarquable. Disons, prometteuse. Alors, je ne savais pas comment il était sur le plan personnel. Et je ne savais pas si elle allait se retrouver dans l'esprit du groupe que j'avais envie de créer. S'il allait pouvoir travailler avec quelqu'un qui un ancien des Yardbirds. Ce n'était pas gagné. Toujours est-il que je l'ai invité chez moi. Je lui ai passé la musique. On parlait de mes disques. Alors, ah, t'as tel disque. Ah ouais, moi j'ai celui-là. C'est génial. La musique blues. Et je lui ai passé « Babe, I'm Gonna Leave You » chanté par Joan Baez. C'était un enregistrement en live. Donc elle a cette voix assez remarquable. Et il l'avait jamais entendu cet enregistrement. Je lui ai dit, voilà, reprends la mélodie. Essaye de faire ce qu'elle fait. Reprends cet esprit-là. T'inquiète pas trop pour les paroles, il n'y a pas beaucoup de paroles. Parce que moi, j'avais un arrangement pour la guitare, pour cette chanson. Donc j'ai commencé à jouer, il a commencé à chanter. Puis je me suis dit, waouh! Donc, le courant est passé entre Robert Plant et moi. Et puis il est venu me voir plusieurs fois. Puis un beau jour, il m'a dit, voilà, je connais ce batteur qui est très bon. Alors, il faut voir que Robert Plant n'était jamais sorti de Birmingham, hein, c'était son patelin, et il avait eu un petit groupe, pas le Hobbs Tweedle, mais enfin, et John Bonham d'ailleurs, il n'était pas dans Hobbs Tweedle. Toujours est-il que John Bonham avait gravi les échelons, parce que maintenant il travaillait avec un certain Tim Rose. Toujours est-il qu'ils étaient en tournée, donc lui il était à la guitare. Donc c'était John et Bonzo. Et je me suis dit, waouh, il est vraiment brillant. Vraiment comme batteur, il écoute vraiment la guitare, le chanteur, il a une vraie dynamique. Et puis il a fait ensuite un passage solo. Alors, j'avais déjà été séduit par son jeu de batteur, mais là j'étais complètement captivé par la batterie de John Bonham. Et puis il y a une véritable puissance chez John Bonham. Une puissance et en même temps une grande sensibilité. Donc on était trois. John, Robert, moi, et puis j'ai reçu un beau jour un appel de John Paul Jones qui a dit, ben, j'apprends que vous voulez créer un groupe, est-ce que je pourrais faire la basse dans votre groupe? Et je me suis dit, ben, très bien, parce qu'on avait John Bonham qui était prêt à travailler avec nous. Enfin, il était sous contrat avec Tim Rose, mais c'était quelqu'un de très professionnel. Il faisait toujours les choses de manière très carrée. Et à l'époque, c'était quand même important. On était musiciens, je sais pas, dans une ville. Bien souvent, pendant la journée, on avait un job à temps plein, et puis on faisait ça de manière mi-professionnelle, la musique le soir dans les clubs. Et Bonzo's, John Bonham, c'était un vrai pro. Toujours est-il qu'il est venu aux répétitions, et on s'est tous retrouvés dans une pièce, et c'était absolument phénoménal. Pourquoi ? Parce que c'était un moment où on sentait que nos vies allaient basculer, parce que tout le monde était tellement brillant. Alors, chacun de son côté, hein, parce qu'ils se sont même surpassés, parce que d'ordinaire, lorsqu'on est un musicien de studio, on est là pour accompagner les vedettes, alors que là, chacun pouvait se mettre en avant, qu'on soit guitariste ou batteur, chacun était là sur un pied d'égalité et chacun s'est ainsi surpassé. Donc, nous avons convenu de se retrouver tous chez nous pour les répétitions. Donc, on a fait les répétitions. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller assez vite pour qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Alors, on risquait pas de s'ennuyer parce que la musique qu'on faisait était quand même tout à fait exceptionnelle. Mais il fallait quand même créer un répertoire au-delà de ce que l'on allait enregistrer pour l'album. Alors, j'ai fait quelques suggestions pour voir ce qu'on pourrait glaner chez les autres. Alors, je me rappelle, il y avait un album qui s'appelait le Velvet Opera de Elmer Gantry. Il y avait une chanson dedans qui s'appelait Flames. Alors, je me rappelle qu'on a fait une reprise de Flames. On a même fait une reprise de Walking in the Sand des Shangri-Las. Alors, je ne sais pas si cette chanson s'est retrouvée dans le répertoire. Mais enfin, je sais qu'il y avait pas mal de chansons en blues. Enfin, il y a eu pas mal d'improvisations. On a créé de la nouvelle musique chaque soir. Donc, toujours est-il qu'on avait encore une tournée prévue en Scandinavie pour les Yardbirds. Alors, tout avait été planifié. Je me suis dit peut-être qu'il va falloir annuler cette tournée. Puis on s'est dit non, on ne va pas annuler parce qu'on a créé ce groupe. On va aller en Scandinavie sous le nom des New Yardbirds. On y allait en quelque sorte incognito. Donc on allait donner ces concerts et à notre retour, on allait changer d'identité.
Quand êtes-vous passé des New Yardbirds à Led Zeppelin?
Bien, nous avions enregistré l'album sous le nom des New Yardbirds, mais cet album n'était pas destiné aux États-Unis. C'est aux States qu'on allait devenir les Led Zeppelin.
Ceux qui vous suivent sur Instagram disent que vous vous rappelez avec une précision extrême de tout ce qui vous est arrivé. Et en effet, je confirme, car je viens de vous écouter, raconter votre vie avec une foule de détails. Du coup, vous vous rappelez exactement ce 12 janvier 69?
Well, the thing is that I knew.
Voyez-vous, il y avait une chose, c'est que je connaissais exactement la valeur de notre groupe sur le plan musical. Avant même de rencontrer Robert Plant ou les autres, je voulais créer un groupe, un peu comme le groupe de Jeff Beck ou de Eric Clapton, un tel groupe que les autres musiciens, que la profession puisse nous dire, dis donc, vous avez un sacré groupe, hein, d'avoir vraiment le respect de la profession. Mais ce n'était pas seulement ça. Ce que je voulais également faire, c'était me différencier, parce qu'il y avait tellement de groupes excellents à l'époque. Je voulais faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais été fait par les autres. Donc, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Mais ce que je savais, c'est que si le premier album marchait bien et que si on restait ensemble, ce serait une aventure absolument phénoménale.
Et à l'époque, dans le monde de la créativité artistique, on retrouvait ça partout. Par exemple avec Alan Aldridge pour le graphisme ou Mr. Freedom pour la mode. Il y avait comme un vent de créativité qui soufflait, non?
Vous savez, moi j'ai une théorie par rapport à tout cela. Je crois que pour toute ma génération, il faut savoir que dans les années qui ont suivi la guerre, lorsqu'on était écolier, étudiant, on savait à coup sûr qu'à la fin de ses études, on allait se retrouver dans l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, service militaire obligatoire. Et tout d'un coup, on a arrêté justement le service militaire. Moi, j'ai échappé de peu. Il y a d'autres groupes, notamment les Rolling Stones. Bah, vous avez Bill Wyman qui a fait l'armée de l'air. Charlie Watts aussi, il a fait l'armée. Ils étaient un peu plus âgés que Mick Jagger ou Keith Richards. Donc moi, j'y ai échappé. Mais alors, ça veut dire qu'il y avait toute une génération qui tout d'un coup avait du temps, ils pouvaient un petit peu souffler et puis prendre des nouvelles décisions pour leur vie, disons, ah, je sais pas, je voudrais faire une école d'art ou créer des vêtements. Et alors là, on commençait à créer des projets, construire sa vie, avait cette possibilité d'essayer de nouvelles choses. Malheureusement, ces opportunités n'existent plus pour les jeunes.
Cela m'amène à la question suivante. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Jimmy Page aujourd'hui? On me pose souvent la même question au sujet de la mode. On me demande si je pourrais faire aujourd'hui la même chose qu'à l'époque où j'ai commencé. Et ce que je réponds, c'est que c'est possible, mais il faut prendre plus de temps et avoir un vrai point de vue.
Oui, non, c'est justement un excellent conseil. Vous parlez d'un point de vue et c'est vraiment un aspect intérieur du caractère.
À mon avis, c'est justement grâce à ce point de vue original que Led Zeppelin a démarré si fort. Le groupe avait sa propre vision, il allait de l'avant, il ne suivait pas les autres, il créait.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on se lance, il faut s'en tenir à ce que l'on sait faire. Hein, quel que soit son art, il faut continuer à le travailler. Si on est écrivain, ben il faut écrire tous les jours. Même si ça paraît pas très bon, il faut continuer d'écrire et puis il faut conserver ces essais parce qu'il se peut qu'un jour on y revienne, on retrouve une très bonne idée qu'on avait eue autrefois. Et voilà, on peut combiner une ancienne idée avec une autre et créer quelque chose de nouveau. Et puis c'est comme ça qu'on peut déclencher quelque chose de nouveau. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour la musique notamment. Mais enfin, l'essentiel, c'est de garder confiance en soi, se dire qu'on peut y arriver et pas baisser les bras. Alors, il faut se dire, oui, je peux y arriver, mais il faut s'y consacrer. Et c'est là que la force de caractère peut se développer, ce point de vue peut se développer.
Ce qui est intéressant dans le monde de la mode, c'est que nous étions les premiers à faire des choses originales, notamment pour les artistes de rock. Je pense à un certain Paul, un ami commun. Par exemple, utiliser des tissus à fleurs ou du velours pour les vêtements d'hommes.
Quoi ?
Du velours pour un homme ? Un peu comme John Bonham, qui avait fait entrer la grosse caisse dans le rock, du jamais vu.
Vous me permettez de raconter cette petite anecdote, le jour où vous avez... parcouru mon ancienne garde-robe. Alors, on était en train de découvrir mes anciens vêtements, et puis Paul a sorti une chemise de ma garde-robe. Il a dit, mais si je ne m'abuse, sur cette chemise, il y aura une couture à l'arrière. Parce qu'à l'époque, les gens étaient tellement sveltes qu'il fallait bien cintrer les chemises. Et puis, il a retourné la chemise, et en effet, il y avait la couture. Et puis, c'était effectivement une de ces chemises à lui, de Paul Smith. Et c'était un moment extraordinaire. J'en ai des frissons à raconter cette histoire parce que c'était un moment incroyable où c'est Paul Smith en personne qui découvrait dans mon ancienne garde-robe un vêtement.
Alors aujourd'hui, pour les jeunes qui se lancent, il est presque impossible de ne pas s'appuyer sur une référence déjà connue. C'est très difficile d'être original.
Mais oui, c'est vraiment difficile. Et c'est dommage parce que, par exemple, en musique, vous avez des jeunes qui se lancent et qui se disent ben, ils vont y arriver en passant par une académie de musique. Alors que non, c'est pas nécessairement le cas. Au contraire, d'ailleurs. Moi, je me rappelle quand je suis allé à l'école d'art, dans mon école, il y avait un certain style, une façon de faire les choses. Alors, on n'allait pas ressembler au Royal College of Art, mais il y avait un style particulier, une espèce de jargon que tout le monde était censé reprendre. Moi, je connaissais la valeur du groupe, je connaissais la richesse de son répertoire. Alors, nous, on a eu la chance de tenir si longtemps, je crois qu'on a duré 10 ans, ou 11 ans même. 11 ans, donc, à faire de la musique ensemble, à créer des albums, à vraiment s'affirmer sur le plan musical. Et puis, on a touché à tellement de différents genres musicaux pendant cette période, que ce que je dirais maintenant, avec le recul, c'est que, bon, évidemment, c'est formidable d'avoir su créer un groupe avec une telle longévité, mais plus que ça, on a véritablement créé avec notre musique une espèce de mode d'emploi pour qui voudrait apprendre, je ne sais pas moi, la batterie ou la basse ou le clavier, la guitare ou le chant ou même l'harmonica. C'est un véritable mode d'emploi.
That was amazing. So, thank you.
Oh, you're welcome.
Yeah.
It's always a pleasure to see you.
Merci Jimmy Page et merci à notre Paul Smith national. Vous passerez à la compta Paul pour le cachet, hein, demandez Brigitte. Alors la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau du groupe Delgrès. C'est con ça, n'est-ce pas ?
C'est pas faux.
C'est con ça, la vie, la vie. C'est con ça, faut accepter. C'est con ça, la vie, la fête. Je dis, je vois.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, Delgrès dans Pop 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 sur France Inter. Je promettais un live en début d'émission, ça tombe bien, c'est le moment. Mais avant le live, faisons connaissance avec ce groupe qu'on adore, Rival Sons.
Bonjour.
Vous êtes des fers de lance, au même titre que Jack White ou les Black Keys des débuts, de ce qu'on appelle toujours le rock'n'roll. On vit à une époque où la musique est divisée en genre et en sous-genre. À quoi correspond l'idée que vous faites du rock'n'roll aujourd'hui?
That's actually a very broad question.
Ça, c'est une question vraiment très large.
Any sense of responsibility toward the art?
Tout sens de la responsabilité par rapport à ce que c'est que l'art,
toward the genre of rock and roll,
de ce genre qu'est le rock'n'roll.
We do understand that we are
on sait bien que nous sommes les gardiens
the fire, just to get it onto
de la flamme
generation.
Pour la passer à la génération suivante.
In the end, I think that we're
et puis au final,
to
je pense qu'on essaie tout simplement de rester authentique
within the parameters of this
à l'intérieur des paramètres
genre.
De ce genre.
Donc en fait, quand vous parlez de préserver la flamme, ça veut dire que cette flamme-là n'est pas menacée, quand bien même la musique dominante aujourd'hui, la scène musicale est largement dominée par le hip-hop.
Ce qui peut menacer le rock'n'roll, c'est le mauvais rock. Tant qu'il y a du bon rock, alors le genre vraiment se portera bien.
Speaking to that, I think that actually hip-hop,
pour répondre, je crois que le hip-hop en particulier,
what is a wonderful thing.
Et ça, c'est épatant.
Is that hip-hop has rock and roll roots.
Hip-hop a des racines rock.
Et d'ailleurs, vous écoutez quoi en tourbus?
We're pretty eclectic.
Oh, yeah,
on est assez éclectique.
We have hip-hop to
hip-hop,
jazz, classical
jazz,
to Cambodian
musique,
folk music,
tons
to
of rock
classique,
and roll.
Beaucoup de rock, de la musique classique cambodgienne.
Appalachian music and
la musique appalache
and to rock and roll
et du rock
garage
and roll.
Rock all of it.
I always say like you know when you're on iTunes or something you pull down the genre
iTunes,
bar and all those
on voit tous ces groupes de genres.
Like genres
il y en avait 10
like
avant et maintenant il y en a 50.
Vous jouez toujours aussi fort sur scène ou vous baissez un petit peu le volume avec le temps?
Yes.
Oui.
Wait, what?
Quoi?
Huh? What?
Feral Roots est votre sixième album en 10 ans, ce qui donne une vitesse de croisière appréciable, hein, surtout considérant que vous passez littéralement votre vie sur la route. Est-ce que l'expérience des concerts joue sur votre approche des enregistrements?
Oui, parce qu'on a de l'expérience, et puis qu'on joue vraiment très souvent, vraiment beaucoup.
Nothing can replace
experience. Rien ne peut remplacer l'expérience.
You can't manufacture.
On peut pas fabriquer les choses.
But I don't think it affects how we record actually.
Mais je pense pas que ça change vraiment notre façon d'enregistrer. Non.
I would say
moi je dirais
it affects it.
Que oui, il y a une influence énormément.
And this all of this time, all of this touring.
Et pendant cette tournée,
living a life, being afforded the life,
comme on a
the
la chance
life that is so
de vivre une vie qui est tellement proche de la musique.
Je crois que
de respirer et de boire et de manger cette musique tout le temps, ça retire toute peur, toute anxiété quand l'on rentre dans le studio. Et du coup, on peut simplement communiquer, être ensemble, être nous-mêmes.
On parle d'expérience et de rock'n'roll. Vous avez passé un long moment sur les routes avec Black Sabbath, puisque vous avez accompagné leur tournée d'adieu. Quel genre d'expérience est-ce que c'était pour vous?
C'était incroyable.
Parce que c'était vraiment jouer de la basse à un niveau extraordinaire. C'était vraiment, on voulait en être là, on voulait en arriver là. Et pendant 13 mois de suivre cette ambiance-là et d'être avec eux, et de le faire pour de vrai, c'était un rêve. Ils nous ont donné ça, ils nous ont enseigné quelque chose que l'on ne trouve pas dans les écoles. Et de regarder ces géants jouer tous les soirs. Et qu'ils nous donnent la chance de vivre dans une immense salle de concert chaque soir. Ils nous ont mis vraiment dans la position de nous y habituer. Et il
n'y
a pas d'autre façon que d'avoir que l'expérience pour arriver à vivre ça. Ils nous ont donné cette chance de nous entraîner, de nous répéter.
Vous avez, vous aussi, une armée de fans qui vous suit à travers le monde. Vous remplissez partout où vous passez, au point qu'on a l'impression d'une véritable communauté. Est-ce que vous échangez des impressions, des commentaires, après concert ou avant, avec eux?
C'est
très gentil de répondre oui.
But that wouldn't be true.
Mais ce serait pas vrai. J'échange avec les fans de temps en temps. Je réponds à leurs lettres, etc.
I have found that allowing,
mais avec le temps,
myself to be too accessible is damaging.
D'être trop accessible, ça me pose problème.
Et
il y a des gens qui sont très sympas et dont les intentions sont épatantes, bien sûr.
But if you listen to people's opinions,
mais si on écoute l'opinion des gens tout le temps, vous devenez à la merci de sans cesse revenir en arrière.
And that's just not something I want to live with.
Et c'est pas quelque chose avec lequel je vis.
Scott, these kinds of people concrètement, that we like
les gens que l'on aime bien,
stars,
comme les vedettes de cinéma, les musiciens,
artists,
les artistes en général,
people that attain some level of fame,
des gens qui atteignent une célébrité.
Comme ça. C'est difficile pour le public,
parce que le public n'interfère pas vraiment facilement avec
eux.
Et quelque part, il y a un mur et quelque part, il est sain. On fait ce qu'on a à faire, on fait de la musique et on n'a jamais voulu tout mélanger.
Jay Scott, avec les Rival Sons, une fois de plus, vous avez soigné le visuel du nouvel album. On doit la pochette cette fois-ci à Martin Whitfoot, un illustrateur américain. Ça représente un énorme chien aux yeux rouges, tout croc dehors, un petit peu mort, on dirait, et qui repose au milieu d'une jungle luxuriante. C'est quoi l'idée? C'est l'état de l'Amérique ces jours-ci ou c'est juste une image étrange?
L'idée, c'est que le chien ne peut pas mourir parce qu'il s'agit de transformation.
Why don't you pick it up, Jay?
Well, we have to start with the underlying narrative.
Il faut qu'on commencer par l'histoire, quelque part, sur Feral Roots.
Particularly the term Feral Roots.
Surtout ce terme.
It is about a return to form.
Ça parle d'un retour vers la forme.
Within our growing world community now, because we live in a global
dans
community.
Une communauté du monde qui est sans cesse grandit, parce qu'on
and
vit dans un
you
monde
look
qui progresse
on the timeline,
et qui avance.
Et
on regarde l'histoire de l'humanité.
This global community is in its infancy.
Cette communauté internationale globale, elle est vraiment à ses débuts.
And we're having growing pains on
et
technology
on trouve des problèmes de plus en plus.
Des
stimulations, la technologie, des informations.
And I think because of that, there is a calling to a return to form.
Une envie de revenir à la forme.
Well, our purest form,
a return, yes, a return.
À quelque chose qui soit vraiment très naturel au format, du début.
Essence.
You à notre know, essence.
I wouldn't explain Martin's painting to
je peux pas expliquer le tableau de Martin, le design de Martin pour la pochette.
Je n'ai
pas envie de mettre des mots sur ce qu'il a dessiné. Mais pour moi, quand je le regarde, on voit vraiment un chien domestique qui retourne à l'état sauvage.
It lays prone in the foliage And you can
et il est là, allongé, on peut voir que c'est une chienne. On peut voir toutes les autres créatures qui arrivent et qui viennent se nourrir.
And that is absolutely
et ça, c'est vraiment le retour à la forme.
Martin and I had et Martin many
et moi,
discussions.
On en a beaucoup discuté de
we
ça.
Sent him the demos
on lui envoyait les démos
and,
de nos chansons.
Began a dialogue
et on sait comment c'était le début d'un dialogue il y a longtemps.
The name of the record and about
le titre du disque,
the ethos of the
et puis tout l'éthos, tout ce qui sous-tend tout le disque. Il a vraiment créé, je ne dis pas seulement que cette image vient simplement de notre musique, mais qu'il avait cette idée dans sa tête quelque part. Et ça lui a donné l'excuse, la possibilité de sortir cette image, de la créer.
Bien, merci Jay Buchanan et Scott Holliday. Vous nous aviez promis de jouer un morceau ici. Je vous suggère donc la version acoustique du single Do Your Worst. Je vous laisse vous installer sur la scène de Pop 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 et après mon pop, c'est à vous. Vous êtes d'accord?
Yeah.
Okay. Vous êtes prêts?
Yeah.
Et...
stranger coming over here, and if you don't recognize him, I know your preacher well. He's got a voice like sugar, sugar in your tea. He can sing you in a song now, sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue, it'll take you when you're older. But it likes some young. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't move. Take my body and do your worst. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst. And if you see that stranger coming off the track, I can hear your mama, she's calling you back. Gonna hit you like a fever, fever dream. Gonna touch you like a thief and leave your pockets clean. Blind your eyes, steal your tongue, it'll take you when you're old. But it likes some young. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do your worst.
Interprété sur la scène Pop 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 par le groupe Rival Sons. Merci, merci messieurs.
Merci.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus et Sonia Leglen, à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Aurélien Esventre, rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Merci Rival Sons, on se retrouve lundi en compagnie d'Anne-Laure d'Hauteville et des Zouzous Migrateurs.